Christophe Pomian, bonjour et merci avant toute chose, merci d'avoir accepté cette petite conférence. Dans un premier temps, je vais juste vous faire une petite présentation et ensuite on passera directement aux questions. Donc vous êtes philosophe, vous êtes historien, vous avez enseigné à l'EHESS, à l'École du Louvre aussi et dans différentes universités étrangères. Vous êtes aujourd'hui directeur de recherche honoraire au CNRS et depuis 2001 de directeur scientifique du Musée de l'Europe à Bruxelles. On vous doit plusieurs ouvrages, plusieurs essais, aussi bien sur la politique européenne, sur la connaissance aussi, la plus en tant que philosophe qu'en tant qu'historien, et aussi sur là où les cultures, on va dire, européennes. Pour en citer trois qui font écho avec votre dernier ouvrage, en 87, vous avez publié aux éditions Gallimard « Connaisseurs, amateurs et curieux, Paris-Venise, 16e-18e siècle ». Et en 2003, toujours aux éditions Gallimard, « Des saintes reliques à l'art moderne, Venise-Chicago, 13e-20e ». Aujourd'hui, là, vous venez nous présenter trois ouvrages, trois volumes, parus successivement aux éditions Gallimard 2020, 2021, en début d'année, et qui portent le titre « Le musée, une histoire mondiale ». D'ailleurs, enfin, c'est bien de le dire, mais très récemment, vous avez reçu un prix spécial décerné par le prix Femina pour l'ensemble de votre œuvre. Donc ces trois tomes, on peut dire que d'ores et déjà, ils font office d'anthologie, même quasiment de référence sur l'histoire du musée. Et dans un premier temps, peut-être pour entamer cette conversation, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous a intéressé, peut-être ce qui vous a intrigué dans cette institution qu'est le musée, une institution d'ailleurs que vous décrivez dès le début comme étant d'apparence inutile, mais pour autant indispensable. Qu'est-ce qui vous a justement amené en fait à travailler sur les collections, mais plutôt sur les musées?
Écoutez, au départ, ce n'était pas du tout mon intention, il faut bien le dire. Au départ, ce qui m'intéressait, c'était comment s'était constituée la discipline que nous appelons histoire, mais qui, à ses débuts, n'était pas du tout une discipline de recherche, ne relevait pas de la connaissance. Elle était, l'histoire faisait partie des belles lettres. Et cette transition de l'histoire du statut d'une branche de la littérature au statut d'une branche du savoir, de la connaissance, c'est ça ce qui m'intéressait au départ. J'ai travaillé donc sur les 16e, 18e siècle, centralement sur les 17e. Sur la République des lettres de l'époque et sur les gens qui étaient encore par certains traités d'antiquaires et qui eux-mêmes commençaient à se définir comme des historiens. Dans ce cadre, j'ai eu à m'intéresser au phénomène de la collection, mais au départ, vu d'une manière très restreinte, collection comme un instrument de travail d'un historien de l'Antiquité, en l'occurrence, donc une collection d'antiquité en tant qu'instrument de travail, utile aussi pour la compréhension d'anciens textes et pour toute une série de questions, datation, etc. Des collections de monnaies ont joué un rôle extrêmement important dans cette histoire, des inscriptions, etc. Et c'est petit à petit, à partir de cette approche qui subordonnait la problématique des collections à la problématique de notre attitude à l'égard des passés, à l'égard du passé. Comment cette attitude à l'égard du passé est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, en gros. Que j'ai évolué petit à petit, un peu sous la pression des circonstances, un peu de mes curiosités personnelles. C'est-à-dire, d'abord, j'ai commencé à m'intéresser un peu aux collections, mais au départ, je craignais de piétiner les plates-bandes des historiens d'art, et donc je me tenais à l'écart de cela. Ensuite, petit à petit, il est devenu évident que cette séparation des collections d'art et des collections qui ne sont pas des collections d'art était complètement artificielle et ne tenait pas la route. En plus, des collègues historiens d'art m'ont un peu poussé aussi dans cette direction. Et c'est dans ce cadre d'une réflexion sur la collection en général qu'est apparu le musée comme une forme de collection. Et pendant assez longtemps, non, je ne pensais pas du tout avoir à m'en occuper. Je me faisais des illusions en pensant qu'il y a mes dévanciers ont réglé le problème et que je n'aurais qu'à lire quelques travaux sur l'histoire des musées pour mes besoins. Il n'y avait pas de ces travaux, je ne pouvais pas lire les autres, il fallait bien que je l'écrive moi-même. Alors, ça a pris beaucoup de temps. Ça, je me rendais compte d'ailleurs que l'opération est un voyage de long cours. Mais enfin, contre toute attente, ça aboutit. Je n'étais pas très optimiste au départ.
Oui. Et bien, là, justement, comme vous dites, c'est la réunion, on va dire, de trois modalités de coller des collections. Dès le premier ouvrage, en fait, vous partez du trésor. Donc, on pourrait dire voilà, que le trésor, c'est un peu l'apanage des monarchies sacrales de l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge, où les biens qui sont accumulés servent plutôt et avant tout une dévotion ou une sorte d'au-delà ou une divinité. Et au fur et à mesure, en fait, on glisse vers la collection au XIVe et au XVe siècle. Est-ce que vous pouvez justement nous dire qu'est-ce qui a favorisé cette transformation ou ce basculement du trésor à des collections?
C'est-à-dire l'apparition de la collection particulière qui est un moment extrêmement important dans cette histoire est très directement liée à plusieurs choses. Bon, à ce qu'on a appelé la Renaissance de l'Antiquité, un énorme retour de l'intérêt pour l'Antiquité, très, très précisément, enfin, au départ pour Rome, Rome républicaine, Rome impériale, la Grèce viendra plus tard. Et cet intérêt pour l'Antiquité, c'était aussi un intérêt pour les objets d'origine païenne. Donc, autant dans les églises, il y avait des trésors des diocèses, les trésors des abbayes, mais c'était des trésors qui avaient justement ce caractère sacré que vous venez d'évoquer, comme il y en avait dans toutes les cours princières de quelque importance. Un trésor était un instrument du pouvoir. C'était aussi là où on puisait pour récompenser les serviteurs. Donc, il était toujours un peu à la frontière. Ce n'était pas une collection d'objets faits pour être admirés, même s'il y avait de tels cas, évidemment. Fondamentalement, la fonction du trésor était une fonction à la frontière de l'économique, du symbolique. La collection particulière était autre chose. Elle apparaît à la fin du XIVe siècle, au XVe siècle, dans un contexte tout à fait spécifique, c'est-à-dire d'une part à la cour de France, avec Charles V, roi de France, qui commence à s'intéresser aux antiquités, c'est-à-dire en fait aux pierres gravées anciennes qu'il possède dans son trésor, comme il y en avait dans beaucoup de trésors, mais lui, il dégage cet ensemble d'objets qui devient un peu sa collection particulière. Et d'ailleurs, c'est dans l'inventaire que nous avons, il est écrit, ce sont des objets que le roi porte toujours par devers lui et dont il dicte lui-même à son secrétaire l'inventaire, quand on fait l'inventaire. Et l'autre endroit où apparaît la collection particulière, ce sont des villes italiennes, de l'Italie du Nord, Florence, Venise en particulier, mais pas seulement, Gênes, Rome viendra plus tard, où ce sont aussi des villes qui se pensent elles-mêmes un peu sur les modèles de la République romaine. Nous en avons beaucoup de témoignages. Et où donc toutes les antiquités deviennent des sortes de reliques. Mais des reliques pas chrétiennes. Et lorsque, à la fin du XVe siècle, nous sommes exactement en 1471, le pape Sixte IV offre à la municipalité de Rome, qui s'appelle pompeusement Sénat, offre un ensemble d'antiques qui étaient depuis toujours, en fait, depuis très longtemps, propriétaires de la papauté, qui étaient exposés devant le palais de Latran, qui à l'époque était le siège de la papauté avant qu'elle déménageât au Vatican. Lorsqu'il offre ces objets, la municipalité les installe dans son palais. Et là, en toute inconscience, parce que certainement son intention n'était pas de créer un musée, il ne savait même pas ce que c'est, il n'avait pas la moindre idée. Il pouvait connaître le nom, le mot, mais au sens du temple des muses. Et encore, je ne pense pas qu'il l'ait connu, mais ça, c'est une autre chose. Toujours est-il que lorsque cet ensemble d'antiques est offert à la municipalité de Rome, qu'il expose, ça suscite un énorme intérêt tout de suite chez les visiteurs qui ne sont pas n'importe qui, on ne les laissait pas entrer n'importe qui, mais par exemple chez les ambassadeurs de Venise, chez les artistes qui viennent et qui dessinent ces antiques. Puisque le pape a offert des antiques, donc les cardinaux ne peuvent pas ne pas imiter le pape, ce qu'ils font, donc eux aussi ils offrent des antiques. Et à peu près une cinquantaine d'années après ce geste, donc quelque part dans les années 1520, apparaît le mot musée accolé à cette institution. Les premières imitations de cet exemple romain apparaissent avec une tentative à Venise qui aboutira plus tard, puis à Florence avec les princes et à Milan avec le cardinal Frédéric Borromée qui va créer un musée. Là, ce sera un musée chrétien parce qu'il sera destiné essentiellement aux artistes avec l'intention de renouveler l'art chrétien. Voilà, tels sont les débuts modernes de ces basculements du trésor à travers la collection particulière vers les musées comme type de collection publique, mais collection publique est profane, séculière, elle n'est pas installée dans un endroit sacré, elle est installée dans un endroit profane. Sa composition est profane parce que ce sont des antiques. On la pense à l'époque un peu comme censée durer pendant l'éternité parce qu'au départ, encore une fois, dans l'intention, ce sont des objets qui doivent témoigner pour l'éternité de la gloire et de la vertu des anciens Romains.
Et effectivement, cette idée justement de collection particulière va perdurer, donc essentiellement en Italie. Après, ça va passer en France. Et là, c'est là où justement ça, c'est le premier volume. Le deuxième volume, vous prenez une petite fourchette de dates très importante. On va y revenir, mais justement avant la Révolution française, donc qui est un événement des plus importants, aussi bien pour le paysage muséal que pour le paysage aussi politique. Mais avant la Révolution française, pardon, est-ce qu'on peut dire que peut-être que le Palais du Luxembourg, qui est en 1750, montre une partie de la collection royale au public, est-ce que c'est déjà une sorte de prototype du musée ?
Tout à fait. L'ouverture au Palais du Luxembourg d'une partie de la collection royale entre 1750 et 1778, c'est la création tout à fait. On n'utilise pas le terme musée à propos de cette collection, on parle de la galerie. Mais en réalité, évidemment, cette galerie, c'est une galerie publique, elle était ouverte au public, il y avait un guide qui était publié. Et si elle a été fermée, c'est uniquement temporairement, parce qu'il fallait loger au Palais du Luxembourg les princes d'Artois, mais avec l'idée était à l'époque déjà de la redéployer au Louvre. Ça a pris pas mal de temps, mais ça a été commencé sous Ancien Régime par les surintendants des Beaux-Arts qui s'en occupaient, le comte d'Angivilliers, et réalisé finalement sous la Révolution, qui introduit en plus cette idée extrêmement importante, laquelle idée chemine déjà depuis un certain temps, elle est présente dans la pensée de Lumière, mais c'est la Révolution qui va vraiment l'expliciter, c'est-à-dire qu'en fait, chaque être humain a droit d'admirer les chefs-d'œuvre de l'art et de la nature. Et puisque chacun a les droits, donc il faut que ça soit placé dans un endroit public, ouvert, au départ d'ailleurs sans paiement, les billets payés seront introduits dans les musées nationaux français très tard, dans les années 1920. Ça a eu des conséquences assez négatives par ailleurs, parce que les musées français étaient privés d'une source de revenus et avaient toujours des difficultés énormes, notamment pour les fonds d'acquisition. Mais cette idée du caractère fondamentalement démocratique du musée est explicitée par la Révolution française. Elle sera mise en œuvre réellement beaucoup plus tard, vers les milieux du 19e siècle. Mais elle est déjà là. Et non seulement il y a cette idée, mais elle est suivie par des démarches tout à fait pratiques, c'est-à-dire par la création de tout un ensemble de musées en France et dans les pays conquis par les armées révolutionnaires ou impériales. Et ces musées, ils sont toujours avec nous.
Ça, et pour dire, pour le Louvre qui va cristalliser cette idée, comme vous dites, de présenter des œuvres à tout le monde, alors même si au début, effectivement, il n'y avait que les copistes qui pouvaient visiter les collections et c'était seulement un jour par semaine où le public parisien pouvait venir justement contempler les œuvres. Ça va déborder les frontières de la France. Et il y a aussi un musée en Angleterre, le South Kensington, qui est créé en 1857, est un musée en fait qui prend pour modèle le Louvre. Ou est-ce qu'il a d'autres missions lors de sa création, je veux dire.
C'est-à-dire. Il y a en effet deux moments fondateurs. En fait, peut-être faudrait y ajouter un troisième. Mais les premiers moments fondateurs, disons, à l'époque de la Révolution française, contrairement à ce qu'on dit parfois, surtout en France, les musées existent déjà bel et bien. Ils existent en Italie, ils existent dans les pays germaniques. Il existe à Vienne, Pour ce qui est du musée d'art et pour ce qui est des musées d'histoire naturelle, elles sont répandues plus largement. Il y en a à Londres, il y en a à Madrid. Donc, contrairement à certains préjugés français, le musée n'est pas une invention de la Révolution française, ni même des Lumières. À cette époque, il a déjà 2 siècles d'existence derrière lui, et il existe dès l'Italie jusqu'à la Suède, parce que le musée de Stockholm est ouvert à peu près dans les années 1780 et quelques. Je ne me souviens plus exactement de la date, mais en tout cas avant la Révolution. Ce que fait la Révolution, c'est justement ce qu'elle multiplie le nombre des musées d'abord. Incidemment, elle opère un énorme transfert des œuvres d'art qui vont voyager entre différents musées et la France, avec cette idée folle que les chefs-d'œuvre d'art sont liés à la liberté, puisque la France est le pays libre, ou si ce n'est le seul pays libre, donc il faut que toutes les œuvres d'art soient regroupées dans la capitale de la liberté que Paris. Bon, ça se termine évidemment par les restitutions, mais l'effet indirect des restitutions, c'est aussi la multiplication des musées dans les pays auxquels on restitue ses œuvres. Mmh. Parce qu'une fois elle était publique et visible, montrée au public à Paris, on ne pouvait pas ensuite les rapatrier, peu importe, à Berlin ou à Rome, et ne pas les montrer au public. Donc, la Révolution est un accélérateur de la multiplication des musées très puissants. Et puis, vient un deuxième moment lié à la grande exposition de toutes les nations, comme elle s'appelle pompeusement, de 1851 à Londres, où on peut dire que c'est une deuxième révolution, la révolution industrielle cette fois, qui va ajouter à l'accélération de la Révolution française un moteur supplémentaire, si je peux dire, parce que elle va étendre l'intérêt des musées aux œuvres d'art dites à l'époque décoratives industrielles. Il y a plusieurs noms qui appliquaient, enfin il y a plusieurs noms qui sont utilisés en l'occurrence, avec une visée explicite d'un public populaire et travailleur, ce qui entraîne toute une série de conséquences. Par exemple, les heures d'ouverture ne peuvent pas être les mêmes quand vous visez un public, disons, qui ne travaille pas, qui n'a pas des contraintes, et quand vous avez un public qui travaille 12 heures par jour, parce que n'oublions pas que nous sommes à l'époque où la durée de travail, c'était 12 heures à 14 heures. Donc il faut qu'il soit ouvert le soir. Puisqu'il faut qu'il soit ouvert le soir, il faut qu'il soit éclairé. Mmh. Et ce sera le premier musée avec les becs à gaz, puisque c'est un public travailleur qui doit y venir. Il faut que la ligne d'omnibus ait un arrêt exactement devant l'entrée du musée pour que les gens puissent arriver, parce que ce ne sont pas les gens qui arrivent dans leur carrosse ou leur landau, enfin, en tout cas par leurs propres moyens. Et ainsi de suite. Ce qui s'est fait, ce qui s'opère ici, c'est une démocratisation du musée approfondie. D'ailleurs, un peu avant, dès 1848, le Louvre changera aussi ses heures d'ouverture, son ouverture, parce que pendant très longtemps, le Louvre n'était pas était ouvert au public une fois par semaine. Mmh. Le reste du temps, la priorité est accordée aux copistes. Mmh. Les musées étaient considérés comme un instrument de la régénération de l'art, beaucoup plus que comme un instrument d'instruction du public, disons ça comme ça. ça change évidemment, grosso modo, après l'évolution de 1848. Donc, c'est ce deuxième moment, les milieux du 19e siècle, qui démocratise à la fois les contenus du musée avec les arts dits industriels à côté des beaux-arts et qui invente en Angleterre tout un ensemble de mesures qui doivent ouvrir les musées aux gens qui ne sont plus des connaisseurs ni même des curieux, mais qui viennent par exemple au musée pour éventuellement s'inspirer dans leur travail des modèles qu'ils y trouvent.
Et justement, en Angleterre, effectivement, donc, il y a cette prise de conscience en fait, de la population, on pourrait dire du peuple. Là, justement, j'avais relevé Gottfried Semper, qui lui parle même déjà de goût populaire dans l'ornementation, justement pour amener le public à venir voir des œuvres dans un musée. Et par exemple, pour le Louvre, vous dites qu'en 1890, il y a plus d'un million de visiteurs par an. Et cet afflux du public, qui est donc, comme vous le dites, composé majoritairement de visiteurs qui n'ont pas les connaissances adéquates pour pouvoir ne serait-ce que comprendre les œuvres ou qui n'ont pas cette éducation plus ou moins spécifique, va du coup déclencher tout un investissement matériel, éducatif, sous la forme de catalogues, de cartels, même de visites guidées et de conférences. Est-ce qu'on peut dire que c'est à partir de là, vraiment, que le musée trouve sa principale mission, qui n'est pas seulement de présenter ou de représenter les œuvres du monde entier, mais aussi d'être pédagogique, éducatif, et justement d'amener un public non connaisseur à des connaissances qu'il n'avait pas jusque-là.
Oui, mais avec un enjeu important qu'est le passage par les États-Unis. C'est un moment tout à fait crucial dans cette histoire parce que ce sont les Américains qui vont pousser la démocratisation des musées jusqu'à ses extrêmes limites, si je peux dire, et qui vont opérer toute une série de changements dont vous avez évoqué certains, par exemple la réflexion sur les cartels, sur la manière de les rédiger. C'est tout un art, mais aussi de la manière de les imprimer, mais aussi de le choix des caractères avec lesquels vous les imprimez. C'est toute une réflexion qui sera poursuivie. Elle commence en Angleterre dans la deuxième moitié du 19e siècle, mais ce sont les Américains qui vont la reprendre à une beaucoup plus grande échelle, qui vont se poser vraiment la question de l'adaptation du musée à un public qui n'est pas préparé déjà, y compris d'ailleurs la préparation du public lui-même, c'est-à-dire c'est aux États-Unis que les musées sortent vers les écoles, qu'ils commencent à organiser des visites scolaires, voire par exemple à placer dans les écoles des petites collections d'objets pour que les enfants s'initient un peu à la fréquentation de ce genre de choses, et puis ensuite, pour qu'ils aillent avec leurs professeurs, éventuellement avec les guides fournis par les musées, pour visiter les musées, pour avoir des classes dans les musées. Donc, il y a tout un travail. J'ajoute une autre chose. Je pense qu'il n'est venu au premier 19e siècle, à l'esprit de personne, de faire une publicité au Louvre. Il était sous-entendu que les gens cultivés savent ce que c'est, ils savent comment y aller. Ce sont les Américains qui vont organiser des vraies campagnes publicitaires pour faire venir les gens au musée, c'est-à-dire dans une ville. même dans une métropole comme New York, vous devez faire en sorte que les publics soient les plus nombreux au musée, que les gens viennent. Mais pour qu'ils viennent, il faut qu'ils sachent que les musées existent et qu'est-ce qu'ils exposent. Il faut qu'ils soient convaincus qu'il s'y passe chaque jour quelque chose d'intéressant, parce que vous ne pouvez pas vous contenter de la situation où ils viendront une seule fois dans la vie et puis c'est tout, c'est fini. Même dans une grande ville, à ce compte, vous aurez épuisé votre public virtuel très vite. Vous devez faire en sorte que les gens viennent et reviennent. Donc, il faut les informer. Donc, il y a tout un travail. Rendre musée, faire du musée presque une sorte de centre, un des centres de la vie culturelle de la ville où il se trouve, ça signifie beaucoup de choses. Par exemple, vous allez installer un auditorium pour donner des conférences ou pour organiser des concerts. Lorsque le cinéma viendra plus tard, vous allez faire des projections des cinémas au musée. Vous faites tout un travail pour apprendre aux gens que c'est là que ça se passe, que c'est là que c'est intéressant, et que c'est là où ils doivent revenir. C'est assez pris. Et comme je dis, je m'interromps, mais pour ajouter, vous devez aussi penser, par exemple, à des choses extrêmement prosaïques. Il faut quand même qu'il y ait un nombre, qu'il y ait des vestiaires, surtout dans les climats qui ne sont pas particulièrement propices et où les gens doivent laisser leur manteau quelque part pour pouvoir visiter. Il faut qu'il y ait des toilettes. C'est une chose prosaïque, mais sans laquelle un musée ne peut pas exister, surtout quand il commence à avoir la fréquentation de l'ordre des centaines de milliers de personnes. Donc, y a toute une conception architecturale et de l'aménagement intérieur qui doit être repensée en fonction des publics de masse. Et c'est ce que nous avons vu en Europe se faire pratiquement après la Seconde Guerre mondiale, c'est arrivé assez tard. Le Grand Louvre, c'était hier. Ouais. Et le Grand Louvre, ce n'est rien d'autre que l'adaptation du Louvre à un public des masses, avec tout ce que cela entraîne, du déplacement de l'entrée et de l'organisation de l'entrée pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage. De toute manière, il y a des queues. Bon, personne n'a pensé à une époque bénie qu'il faudra vérifier les sacs, introduire des mesures de sécurité supplémentaires. Mais on est capable de les faire parce que tout un travail a été fait pour ouvrir les musées le plus largement possible, avec tout ce que cela entraîne des conséquences.
Justement, cette idée de faire venir le plus de personnes possible dans les musées américains, ça crée un nouveau modèle. Comme vous dites, il y a la publicité qui se crée aussi pour faire venir ce public-là. Est-ce que ce n'est pas dû aussi en Amérique au statut particulier qu'a le musée, qui n'appartient pas à l'État ?
Ah, mais évidemment, aux États-Unis, c'est lié aussi directement à des considérations financières. De toute manière, les musées est déficitaire, mais un musée qui a un grand nombre de rentrées a une situation financière quand même meilleure. Et puis, si vous voulez mobiliser les sponsors, faire en sorte que les gens donnent de l'argent au musée, il faut aussi montrer que les musées existent et qu'il est vraiment une institution de la communauté urbaine en l'occurrence. Et donc, cette lutte pour le public pour les faire venir, pour les retenir, pour les intéresser, et pour qu'il sorte convaincu qu'il a appris quelque chose, qu'il s'est enrichi. Pendant la visite du musée, cette lutte pour le public est aussi liée, du point de vue de l'administration du musée, à des considérations tout à fait prosaïques. Il en est aussi, même aujourd'hui, même dans le cas, des musées qui bénéficient du budget de l'État, qui ne sont pas uniquement condamnés à vivre avec ce qu'ils gagnent eux-mêmes ce que les sponsors privés vont leur donner. Mais aucun musée français aujourd'hui n'est en mesure d'organiser une grande exposition sans l'aide des entreprises, sans les patronats privés. Donc, ce qui, là aussi, entraîne toute une série de conséquences, toute une diplomatie à l'égard de ces gens, mais il faut leur donner quelque chose en échange. Et parmi les choses qu'on leur donne, c'est aussi une sorte de visibilité. Pour une entreprise, aujourd'hui, s'afficher en tant que patron d'une... d'une grande exposition d'art ou participant à l'acquisition d'un chef-d'œuvre, c'est aussi un argument publicitaire. Donc évidemment, comment dirais-je, on ne peut pas réduire la recherche du public uniquement à des considérations des hautes idéologies, démocratie, etc. On est dans la prose, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Les résultats de tout cela, c'est justement que les musées d'une institution marginale destinée à une petite élite cultivée est devenue une des institutions centrales de nos sociétés, indispensable au bon fonctionnement de nos sociétés, et que lorsque ils ont été fermés pendant les confinements, pendant les Covid, tout le monde se sentait un peu mal à l'aise, même si on pouvait voir les collections parce qu'elles ont été numérisées, parce que nous avons désormais des techniques qui permettent de montrer les œuvres même en trois dimensions sur un écran. Mais quand même, ce n'est pas exactement la même chose que de regarder les choses sur un écran de votre téléviseur ou de votre ordinateur, et de pouvoir aller au musée et de vivre physiquement l'expérience du musée.
Et justement, pour rebondir là-dessus, est-ce que à l'époque, il y avait les collectionneurs, donc du coup privés, en montrant leur collection, c'était aussi pour montrer leur richesse, leur importance, leur pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, plus encore qu'hier, le musée est devenu... Enfin, aujourd'hui, je veux dire, à partir de des années 50, 60, est-ce que le musée est devenu, beaucoup plus qu'auparavant, un instrument de pouvoir aussi ? Un instrument pour montrer, justement, la grande richesse d'une nation à travers ses collections, à travers la création de ses musées ? Par exemple, on a vu en France, il y a 4 présidents qui sont à l'origine de la constitution d'un musée. Est-ce que c'est devenu plus encore un instrument de pouvoir, le musée, au XXe siècle ?
Dans une certaine mesure, je n'aurais pas exagéré cette dimension. Mais dans une certaine mesure, oui, dans la mesure où les musées, et entre autres, à côté d'autres fonctions qu'il joue, un instrument de cohésion sociale, est un lieu où on communique dans cette idée fantasmatique que ce qui nous unit, entre autres, c'est aussi le fait que nous sommes collectivement propriétaires des richesses artistiques. Le Louvre appartient à tous les Français. C'est une phrase facile à prononcer, mais dont la signification est beaucoup plus difficile à décortiquer. Mais c'est un fantasme d'une certaine manière. Le Louvre ne vous appartient pas, ni à moi non plus. Et en même temps, il nous appartient. Donc, c'est très compliqué, mais c'est une des composantes, et non négligeable du tout, de cette sorte de sentiment d'appartenance. Quand vous dites « je suis français », c'est aussi cela que vous dites. Je suis français, donc je suis copropriétaire du Louvre. Ce n'est pas la seule composante de l'identité française, loin de là, mais c'est une composante non négligeable. Et en ce sens, évidemment, les musées sont un instrument du pouvoir, mais il ne faudrait pas réduire cette formule à une sorte de, d'idée que les musées... comment dirais-je, directement manipulé, utilisé par le pouvoir. Mmh. En même temps, il est parfaitement vrai que, dans le cas de la France, mais la France est à cet égard assez exceptionnelle, créer un musée, c'est pour un président de la République s'immortaliser beaucoup mieux que par quoi que ce soit d'autre, probablement. Et... les Quai Branly, Jacques Chirac, la bibliothèque François Mitterrand, en l'occurrence c'est la bibliothèque, mais François Mitterrand est aussi présent au Louvre parce que c'est sous sa présidence que le Grand Louvre a été lancé, une partie pour une part menée à son terme. Georges Pompidou a son plus grand monument sous forme du Centre Pompidou et du Musée national d'art moderne, qui en est la partie la plus visible, la plus utilisée par les publics. Donc, ce n'était certainement pas pour eux des instruments du pouvoir au départ, parce qu'en général, ils n'étaient plus là. Ou en tout cas... ce sont des opérations muséales qui se jouent dans une temporalité différente de celle d'une période d'une magistrature, d'une présidence de la République, même dans ses septennats. Donc, c'est un élément important de la politique au sens plus profond de ces termes. Pas tellement de la politique politicienne, je dirais.
Oui, une sorte d'en dehors un petit peu de la politique, ou pour les musées, justement, dans cette idée de s'immortaliser aussi à travers la création d'un musée, ou l'idée de la création d'un musée pour un politicien. Ouais. Il y a un petit peu cette idée-là.
Oui, non, mais les musées est, entre autres, un monument qui garde la mémoire d'une certaine manière, qui célèbre ceux qui l'ont créé, comme ceux qui ont contribué. De même que nous avons des noms des collectionneurs auxquels, par exemple, Louvre est redevable, qui sont explicités à la fois. Il y a un tableau qui, des donateurs et des bienfaiteurs du Louvre, comme vous avez, je ne sais pas, la collection Beistegui qui est exposée comme telle, le nom du collectionneur est présent, ou la collection Rothschild, notamment au département des arts graphiques. Et c'est vrai de tous les musées. De même, les présidents de la République en France ou certaines, des grands millionnaires américains ont leur monument au musée, le Metropolitan Museum. C'est aussi les monuments à John Pierpont Morgan, qui a énormément contribué à différents titres à ces musées. Et il n'y a pas de musée aux États-Unis qui ne soit pas aussi un monument à tout un ensemble des donateurs, des collectionneurs, grâce auxquels les musées et ce qu'il est peut montrer ce qu'il montre.
Et justement, dans cette phase, deuxième phase du XXe siècle, même du début du XXIe siècle, il y a une autre figure un petit peu du paysage muséal, c'est les fondations, les collectionneurs qui créent des fondations. Il y a la Fondation Cartier, il y a la Fondation Louis Vuitton, il y a, par exemple, nous ici, il y a l'Institut Bernard Magret aussi, et ils créent des lieux qui ne sont pas tout à fait des musées, mais qui ont la mission des musées. Quelle serait la particularité, justement, qu'est-ce qui les différencie réellement ? Un musée d'une fondation aujourd'hui, par exemple.
D'abord, en invoquant la Fondation Vuitton ou la Fondation Cartier, vous introduisez un thème extrêmement important. Là aussi, d'une certaine manière, c'est venu des États-Unis. Pendant très longtemps, en France, les musées, c'était soit affaires d'État, soit des municipalités qui s'en occupaient. L'entrée dans ces secteurs de l'initiative privée, et notamment des grandes entreprises, mais aussi des fondations créées par les artistes. Par exemple, la Fondation Artung à Antibes en est un exemple parmi d'autres. Nous aurons, je viens de les lire il y a quelques jours dans Le Monde, un musée Giacometti à Paris, comme nous avons les musées Picasso d'ailleurs. Bon, c'est un peu une situation nouvelle par rapport à, en tout cas par rapport à la tradition française antérieure. Et les deux fondations que vous venez de citer, la Vuitton et la Cartier, sont des très bons exemples. La Fondation Pinault, maintenant, au cœur de Paris, c'est l'entrée dans le domaine des musées de la grande entreprise qui brasse des sommes énormes qui désormais à la fois se donne un rôle culturel et fait parler d'elle, non pas en termes de publicité, mais tout simplement, Louis Vuitton, c'est non seulement la mode, mais c'est aussi la Fondation Vuitton, avec des remarquables expositions qu'elles font. En l'occurrence, ce ne sont pas exactement les musées, au sens où, très souvent, il n'y a pas de collection permanente. Encore que j'ose penser qu'à terme, toutes ces fondations auront des collections permanentes à gérer, à moins qu'elles résolvent ces problèmes autrement, en laissant leurs collections, par exemple, au musée déjà existant. C'est une solution. Mais à terme, probablement, elles y viendront tôt ou tard. Pour le moment, elles organisent des expositions, elles n'ont pas des collections permanentes qui est là, ce qui facilite un peu la vie. Mais comme j'ai dit, à terme, ce sera probable. Mais d'ailleurs, ce n'est pas vrai de tout le monde. La Fondation Artung gère l'héritage Artung, qui est énorme. Il y a des centaines de tableaux, des milliers de photos et d'œuvres sur papier. Et là, on a un musée, pratiquement. C'est purement une question de nom, que ce mot soit utilisé ou pas. Ouais. Mais en fait, c'est ça.
Et justement, dans le troisième volume, qui est le plus conséquent, on ne peut pas revenir sur tout ce que vous y écrivez, parce que du coup, ça prendrait beaucoup de temps. Et on va pas forcément parler des restitutions parce que c'est un sujet là qui, pour le coup, demande aussi beaucoup de temps. Mais peut-être là, une dernière question un peu facile ou un peu naïve. Aujourd'hui, à l'aune du tout numérique, par exemple, où il y a de plus en plus de personnes qui deviennent des collectionnistes, ne serait-ce que par des plateformes Internet, est-ce que ça a un impact sur le musée de demain? Est-ce que vous pensez justement que le musée va non pas se retrouver dans une impasse, mais tout au moins va être obligé de plus en plus de prendre en considération ces autres musées qui sont en train de se créer et qui sont seulement immatériels?
Il est incontestable que la numérisation est en train de changer énormément des choses. Mais est-ce que les musées... quand on parle d'immatériel, moi je n'aime pas d'ailleurs beaucoup cette expression parce que elle crée une illusion. Les choses numérisées, les objets numérisés sont tout aussi matériels. Il faut des écrans. C'est une autre matérialité tout simplement. Ouais. Mais ce n'est pas la matérialité visible, c'est une matérialité, disons, observable. Mais qui est là. Cela dit, ça change certainement beaucoup la vie des musées pour plusieurs raisons. Ça permet une exposition différente et ça permet aux gens de voir les objets sans venir au musée. C'est d'ailleurs un problème qui va se poser, qui se pose déjà à la suite de la pandémie. Nous ne savons pas encore si toutes les personnes qui ont appris à regarder les collections muséales sur leur écran reviendront au musée pour les voir. Les gens ne se rendent pas complètement compte de la différence de principe entre voir un objet sur l'écran et les voir en tant qu'objet sous vitrine. C'est une absolument autre chose de voir un tableau sur écran et voir un tableau dans des conditions changeantes, éventuellement des températures. Et quand vous pouvez bouger, tout simplement. Je voulais dire des conditions changeantes d'éclairage. Pardon, j'ai dit des températures, une bêtise. Quand vous percevez un objet, et notamment un tableau, vous bougez. Quand vous êtes assis devant votre écran, vous n'avez pas besoin de bouger. De toute manière, vous n'irez pas regarder de l'autre côté parce qu'il n'y a rien à voir. Donc, c'est une différence absolument fondamentale sur tous les plans. Mais dans quelle mesure est-elle importante pour les publics qui, pour une part, s'est satisfait justement de la vue sur l'écran? Et dans quelle mesure il ne s'en satisfait pas, ça je n'en sais strictement rien, et pour le moment nous ne le savons pas trop bien. Nous verrons comment vont se présenter les courbes de fréquentation maintenant dans la période post-Covid, si vraiment ce sera la période post-Covid. Soyons optimistes. Et puis il y a tout un ensemble de soi-disant choses immatérielles qui entrent au musée de différentes manières. Mais encore une fois, comme je dis, je n'aime pas beaucoup ce terme immatériel parce qu'il introduit des suggestions qui me paraissent, je dirais pas fausses, mais en tout cas qui orientent dans une mauvaise direction.
Oui. Oui, pour l'interprétation, ouais. Ouais, oui, effectivement. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Voilà.
C'est moi qui vous remercie pour l'hospitalité, pour cette occasion qui m'est donnée de parler à la librairie Mola, que j'ai visitée il y a des années pendant un passage à Bordeaux, mais qui est quand même un endroit... Qui compte sur la carte culturelle de la France. Donc, donc c'est un privilège de pouvoir passer, parler. Voilà.
Mais surtout, merci à vous, justement, d'avoir répondu à ces questions pour la librairie. Merci beaucoup.
Merci encore.